Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe, c'est Sophie dans l'Aude. 11 septembre, New York et son cortège de conséquences. Aujourd'hui, vous êtes américain ou vous êtes terroriste. 21 septembre, un ciel très bas, lourd, pas un pet de vent dans le département de l'Aude. C'est rare. Vers 10h du matin, les fenêtres entrouvertes se mettent à battre subitement et brièvement, comme sous le coup d'une rafale de vent. Étonnant. Nous sommes à 100 km environ de Toulouse. Ensuite, les infos. Une usine produisant des substances toxiques entrant dans la composition des engrais chimiques vient d'exploser. Il ne s'agit vraisemblablement pas d'un attentat, mais d'un accident. Ok. Encore, il y a différentes manières d'attenter à la vie d'autrui. Jusqu'à ce jour, de ces poisons-là, qui continuent à être fabriqués en toute liberté et impunité, on en mourrait. D'accord, mais de mort lente. Il va falloir se mettre au bio, non? Ou vous êtes bio, ou vous êtes terroriste. Et d'ailleurs, nous sommes tous des Toulousains. Allez, salut, à bientôt.
Salut Daniel. Voilà, donc on est le 3 mars 2002. J'ai laissé passer quelques mois, et puis le temps a fait son œuvre. Donc on a un peu oublié les morts aux USA. On se concentre beaucoup plus sur ce qui se passe sur l'immédiat. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que on meurt moins de faim à la surface de cette planète au milieu de la richesse qu'on peut avoir? Est-ce qu'il y a moins d'exploités? Est-ce que la mort de Ben Laden ou la sanction, la punition légitime des Américains qu'elle a entraînée, ou bien est-ce que la montée en puissance du terrorisme avec ces vagues d'attentats qu'on constate depuis janvier 2002, est-ce qu'elles vont changer la vie fondamentalement? J'en suis pas sûr. Une chose est sûre, à mon avis. Et c'est ce qu'on peut constater, il y a toujours autant de salauds à la surface de la Terre. Par contre, on peut rêver, parce que les rêves d'aujourd'hui sont les réalisations de demain. Je crois qu'il y a toujours autant de gens, d'hommes et de femmes qui y croient, qui se disent qu'en voulant changer la vie, on va y arriver. Je voulais finir donc sur cette note d'optimisme, parce qu'on n'a vraiment pas le choix, on est obligé d'y croire. Je suis sûr que demain, ça ira mieux qu'aujourd'hui. Il faut que tous ensemble, on y croit. À bientôt, merci.
Deux messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. On vit un peu comme dans ce proverbe chinois qui dit quand on prend un coup sur la tête, il y a deux possibilités. Ou bien on s'endort, on tombe dans la connaissance, ou bien au contraire, on se réveille et on en est là. Peut-on choisir de se réveiller ou de rester inconscient? En tout cas, dans vos messages, on voit que vous êtes très très éveillé, très en alerte, très inquiet aussi, très très inquiet. Aujourd'hui, on va retrouver l'équipe du Monde Diplomatique, du mensuel Le Monde Diplomatique, qui n'est pas encore sorti. C'est le numéro qui sortira à la fin de cette semaine. Le Monde Diplomatique dévoile ce numéro et ça m'a semblé intéressant et important de savoir ce qu'il pensait. Vous savez que ça fait des années que chaque mois on se retrouve avec la rédaction de ce journal. Mais auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Saint-Carole, j'appelle de Toulouse et c'était juste pour te demander de pas laisser raconter n'importe quoi sur ce qui s'est passé ici. Et voilà quoi.
Si c'est Anne, je vous téléphone de Belgique pour vous demander est-ce qu'on va faire des minutes de silence pour les blessés de Toulouse. Est-ce que les Américains vont faire des appels pour ça, pour aide à la population? Voilà.
Bonjour, c'est Chirine de Cannes de Lyon. Je vous appelle à propos de l'exposition de Toulouse. J'étais choquée pour l'attentat de Manhattan, parce que ma nièce était là-bas, mais heureusement, la veille, elle était dans le tour, mais pas le jour même. J'entends de tout le temps que on était très pro-américain, c'est sûr, dans ce moment-là. Ça nous a beaucoup touchés, mais je demande, est-ce que les Américains disent aussi qu'on est les femmes comme... Excusez-moi, j'arrive pas à le dire. On est français. Merci beaucoup. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Erwan de Lyon, j'ai 25 ans. Mais là, je suis absolument consterné à la vue du Téléthon américain. où le Star System américain va servir à recueillir de l'argent pour les victimes des attentats. Même en France, on peut envoyer de l'argent, des dollars, n'importe quoi. C'est absolument tragique. Le système prend un visage absolument hideux, où on nous essaye de nous faire croire qu'aux USA, il manque de l'argent.
Monsieur Bush, mourir pour des idées, Georges Brassens, un poète, en a déjà parlé. Mais mourir pour se venger, c'est encore une plus grande bêtise. On n'oubliera pas le nom de celui d'assassin qui tua ces 1807 personnes. On n'oubliera jamais le nom de celui qui déclenchera la guerre sainte. On n'oubliera pas les noms de tous ces sages pacifiques, tous ceux qui imposeront une paix à ce monde de fous. La guerre est écrite dans le racisme et la haine.
Salut Daniel, c'est Sophie, Bordeaux. Bon, alors qu'est-ce que j'apprends? On a interdit Imagine, John Lennon? Ah non, pas ça, c'est pas possible. À quand les autodafés? Hein? Et les sorcières brûlées en place publique, je sais pas. Enfin bref, moi je veux le chanter haut et fort en tout cas, même si je chante faux, mais je veux le chanter. Imagine there's no country, it isn't hard to do, nothing to kill or die for.
Qui aurait cru que chanter simplement Imagine sur la radio deviendrait presque subversif? Faut-il que l'émotion nous ait voilé le regard et l'esprit? Mais on voit aussi que quand même la réflexion est en train de se débloquer, se désinhiber. On se prend la tête, on veut comprendre, on est peut-être un peu trop impatient. Il faut du temps pour rattraper le retard. Je dis retard parce que on le verra dans cette émission avec l'équipe du Monde Diplomatique, comment la connaissance du monde, comme on disait autrefois, a pris bien du retard au profit de sujets beaucoup plus intérieurs, de politique intérieure ou tout à fait frivoles. Et alors, on va retrouver l'équipe du Diplo, mais on a encore quelques messages, toujours sur le 01 56 40 37 37.
Bonjour, Daniel, c'est Robert dans les Hautes-Alpes. C'était pour demander si c'était complètement obscène d'envisager que la CIA et le FBI savaient tout et on laissait faire. Parce que pour ces gens-là, 10 000 morts, c'est pas grand-chose. Et quand on voit le succès de l'opération par rapport à Bush, qui il y a 6 mois était moins que rien, et que maintenant c'est le chef du monde libre, franchement, ça m'étonnerait à peine. Bon, à part ça, c'est difficile de joindre votre répondeur. Au revoir, à bientôt.
J'aimerais apporter moi aussi une pensée qui m'est venue dès le début. L'Amérique était à bord de la récession, et faut chercher à qui profite le crime. À mon avis, actuellement, je pense qu'une guerre les arrangerait bien et leurs services secrets sont capables de tout. Et en faisant, comme ils disent si bien, une frappe chirurgicale, là, ils ont fait des frappes chirurgicales. On regarde pas à détruire des vies humaines. Voilà ce que je pense.
Oui, nous, salauds d'Occidentaux, sommes forcément responsables de tous les malheurs du tiers-monde, des régimes corrompus, du manque de démocratie, des cultures de la violence, de l'esclavagisme qui existe encore dans certains pays arabes et africains, du manque de respect des femmes, des pratiques sexuelles totalement irresponsables et de la surpopulation. À vous entendre, les pays sous-développés sont encore et toujours irresponsables de leurs actes. Qu'est-ce que vous faites de la volonté des peuples de progresser et de chercher à sortir de leur marasme en prenant des initiatives et en travaillant dans des pays libres, débarrassés de traditions totalement rétrogrades? Encore faut-il en avoir envie. D'un côté le fatalisme, de l'autre la volonté. Pauvres frustrés d'auditeurs complètement conditionnés par les tout petits médias français.
Bon, dimanche dernier, avant le JT de 20h sur TF1, j'ai vu un reportage sur l'Afghanistan. On a pu encore une fois constater les atrocités perpétrées par les talibans. Je fais allusion aux exécutions publiques. Mais la cerise sur le gâteau, c'est quand même le moment où un des talibans expliquer pourquoi les musulmans ne mangeaient pas de porc. Et selon lui, c'était parce que c'était le seul animal sur la terre à ne pas respecter sa femelle. Voilà.
Salut Daniel, Christophe de Lorient. Concernant les États-Unis, ne nous dit-on pas assez souvent, il ne faut pas vous faire justice vous-même. Cela n'est pas votre travail, mais celui de la police et de la justice. En étant un petit peu provoquant, l'Amérique n'est-elle pas en train de se faire justice elle-même ? N'est-elle pas en train de jouer à la fois le rôle de la police et de la justice ? Que fait donc l'ONU ? N'y a-t-il pas un manque cruel d'une instance internationale suffisamment forte pour gérer sereinement, équitablement et en toute justice les conflits internationaux de ce genre?
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis avec Le Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from...
The President declares... This was an act of war.
The United States of America will use all our resources to conquer this enemy.
But who is the enemy?
Aquí Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde.
Un jour, chacun pourra investir dans n'importe quelle société au monde. Négocier sans frontières, avec une facilité, une rapidité et une maîtrise des coûts à peine imaginables aujourd'hui. Il existe un endroit où la technologie se dessine déjà. Un marché prêt à ouvrir aux investisseurs du monde entier l'accès aux ressources infinies d'Internet. Nasdaq, vers de nouveaux horizons.
À quelque chose, malheur est bon, comme répète ma maman. À quelque chose, malheur est bon. Soit nous nous lançons dans une croisade effrénée et bornée, la lutte du bien contre le mal, de la civilisation contre la barbarie, ou bien nous essayons de comprendre, nous essayons d'agir sur la partie non fatale du devenir. Ce choix n'est pas nouveau, il est ancien, mais il se présente à aujourd'hui d'une manière très crue, très violente. Puisqu'on parle de civilisation, nous serions, nous, la civilisation, et en face, de l'autre côté, il n'y aurait que barbarie et terrorisme. Notre civilisation, c'est, par exemple, la civilisation des Lumières. C'est la civilisation qui est capable, qui s'est montré parfois, quelquefois, capable de dépasser un sentiment de colère tout à fait légitime devant les atrocités commises et un désir de vengeance aveugle pour analyser les causes profondes du problème, acceptant aussi de remettre en question un modèle de développement profondément injuste. C'est des lignes de Frédéric Lenoir, qui est sociologue, chercheur au Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux. Un modèle de développement profondément injuste. Depuis 12 ans, dans la basse si j'y suis, nous arpentons la planète en tous sens, du bout du monde et au coin de la rue, et très souvent, nous montrons les effets de ce développement profondément injuste. Il y a évidemment un lien entre les effets de ce développement ou de cette absence de développement et ce qui s'est passé aux États-Unis. Saurons-nous établir ce lien? Saurons-nous agir sur le développement mondial? Saurons-nous, au moment de la mondialisation économique, tâcher de penser le monde? Le monde, c'est tout le monde. On se retrouve aujourd'hui avec l'équipe du Monde Diplomatique pour le numéro qui va paraître à la fin de cette semaine, donc qui n'est pas encore en vente, qui n'est pas tout à fait fini d'ailleurs. On retrouve Ignacio Ramonet, Alain Grèche, Dominique Vidal, Serge Halimi et Maurice Lemoine jusqu'à 18h sur France Inter.
Allez, montez dans la voiture, j'ai
regarde, Bilal, il s'en va.
500 casse break chargé, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher. Bilal, va pisser. Le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais, c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Vito? Avec Jaya City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer Feudal, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout Tati. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à Boulay-Mat avec mon zinc et son Derbouka. Dans la main, un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de Zizitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zerwaniya. On parle de tout et de rien, des Nike Air au Visa, de la traversée du désert au Boukouskous de Yima. Et mon cousin me dit,
Karim, kiff le zetla.
Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec deux trois blédards, on tape la discussion. Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un d'eux me dit,
moi je t'ai pas vu cette télévision.
Et l'autre me demande,
Sahat Araf Michael Jackson.
Il parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinar, connard. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et du latte. Pour d'autres la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers monde. Et si j'avais assez d'oseille, je ramènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. J'ai 10 morceaux ont disparu aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité,
Arbeya.
Content de revoir mes potos
et ma chepa.
Pendant deux semaines j'ai mangé que de la shorba. J'irai finir mes jours là-bas.
Que prépare le monde diplomatique dans son prochain numéro? Pour la première fois, on va parler d'un numéro que je n'ai pas lu, qui n'est pas en vente, qui va être en vente vendredi. Évidemment, vos réactions, vos analyses et vos commentaires sont particulièrement attendus. Alors, Ignacio Ramonet, comment vous avez orienté ce numéro?
Bon, alors bien sûr, le monde diplomatique fait un dossier important sur cette affaire, hein, qui a suscité une immense émotion à travers le monde, mais qui, à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire quand même, disons, 15 jours après les attentats, l'heure de la réflexion, en quelque sorte, le moment de l'analyse plus dépassionnée, commence à s'imposer. Donc au moment où nous serons en kiosque, c'est-à-dire à la fin de cette semaine, il est clair que ce qu'attendent, je pense, nos lecteurs, mais les citoyens en général, c'est précisément des analyses où le sang-froid s'impose. Hein. Ce dossier est un dossier de 8 pages, hein, dans le monde diplomatique, où un certain nombre d'aspects sont évoqués. D'abord, évidemment, nous soulignons le fait que, contrairement à l'opinion que pourraient avoir beaucoup de nos concitoyens qui ont vu la télévision française et à travers la télévision française, la télévision américaine, ils pourraient imaginer que le monde entier, en fait, a réagi de la même manière avec, disons, autant de compassion, autant de solidarité, autant de précipitation, etc., autant de manifestations rituelles autour de la douleur américaine. Nous leur disons que ce n'est pas le cas. C'est la réalité est cruelle, et celle-là, ce n'est pas le cas. Dans une grande partie du monde, disons, les réactions spontanées des gens dans l'ensemble ont été de l'ordre... bon, c'est évidemment terrible et triste pour les gens, mais les Américains, et notamment les États-Unis en tant qu'État ne l'ont pas volé, ils l'ont bien cherché, etc. Des réflexions de cet ordre. Et donc on essaie d'expliquer pourquoi.
Bien sûr, Ramonet. Si on faisait un sondage d'opinion mondiale, ce qu'on n'a jamais fait à ma connaissance, selon vous, comme ça, intuitivement, qu'est-ce que ça donnerait ?
Ça donnerait une majorité, disons, qui bien sûr plaindrait les victimes, mais une majorité qui estimerait que les États-Unis ont une part de responsabilité dans cet événement et que, en particulier, ils ne peuvent pas, depuis maintenant 50 ans, disons, se mêler de tous les conflits du monde, vouloir les régler parfois d'une manière très peu légale se surprendre que parmi tous ceux qui se considèrent comme des victimes des États-Unis, à tort ou à raison, à un moment ou à un autre, eh bien, se retournent contre eux. Je veux dire, on rappelle tout de même, très rapidement, mais on rappelle comment, pendant la guerre froide, les Américains ont soutenu des groupes terroristes qui ont pratiqué le terrorisme. Des attentats, des assassinats, des détournements d'avions, des coups d'État. Combien de coups d'État en Amérique latine, en Afrique, en Asie, etc. ont été, et en particulier, par exemple, le coup d'État de 48 en Iran. Combien, par exemple, cette lutte anticommuniste a conduit les Américains à soutenir des régimes qui liquidaient physiquement des communistes à travers le monde. On rappelle tout simplement qu'en Indonésie, il y a eu, d'après les statistiques, 1 million de communistes liquidés avec la complicité américaine. Au Guatemala, comme vous savez, d'ailleurs le président Clinton était lui-même s'est rendu il y a 2 ans au Guatemala pour reconnaître la participation américaine dans l'élimination de 200 000 Guatémaltèques, etc. Donc, ne parlons pas, évidemment, de la situation au Proche-Orient, où une grande partie du monde arabe, en particulier, du monde arabe ou musulman en général, reproche aux États-Unis leur attitude, disons, non impartiale, ou leur attitude partiale en faveur d'Israël et au détriment, disons, des droits des Palestiniens. L'attitude qu'ils peuvent avoir encore aujourd'hui lorsqu'ils se mêlent ici ou là d'un certain nombre de conflits. Ils sont présents militairement en Colombie. Je ne veux pas évoquer la guerre du Vietnam, ce que ça a représenté, etc. Donc, le bilan dans l'ensemble, le monde est quand même composé de 6 milliards de personnes. Ces 6 milliards de personnes, on peut dire que, disons, globalement 5 milliards vivent dans ce qu'on appelle le Sud, les pays pauvres. Et beaucoup de ces pays pauvres ont connu, et parfois dans leur chair, une attitude des États-Unis qui n'était pas celle de la puissance généreuse, libératrice, etc., que nous, Européens, nous avons connue. Il est tout à fait normal, je dirais, qu'en France, en Europe occidentale, il y ait une sympathie à l'égard des États-Unis. La France a été effectivement libérée à 2 reprises par les États-Unis, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres pays. Et il faut voir que les États-Unis sont une puissance mondiale, pas seulement une puissance européenne.
Dime con cuántos palos haces la canoa. Dime con cuántas verdades me vas a engañar. Dime que estás aquí, dime que estás por llegar. Con tu guía y tu canoa en las olas del mar. Dame lo que tú tienes para mí.
Dámelo.
Dame la alegría y un poquito de ti. Dame por mi bien, dame que te da igual. Dame la sintonía del carnaval. Se ha ido la feria, oh hey. Se ha ido la fiesta, oh va. Se ha ido la folia también. Y ya no tengo nada para dar. Se ha ido la feria, oh hey. Se ha ido la fiesta, oh va. Se ha ido la folia también. Ya no tengo nada para dar.
Sans amalgame aucun, on pourrait résumer ce qu'on entend un peu partout. dans nos radios, dans nos télés, dans nos conversations, sans amalgame aucun entre les bons musulmans et les mauvais. Évidemment, amalgame intenable quand on sait les penchants diaboliques qui sont ceux de chaque société à rejeter et à manifester racisme et xénophobie, sans amalgame aucun. Difficile de faire d'éviter cet amalgame quand des voix autorisées nous disent c'est eux et nous, c'est la barbarie là-bas et ici c'est la civilisation. Toute la presse, une partie au moins de la presse, disons pour être plus juste, a évoqué guerre de civilisation ou guerre de culture ou guerre de religion présentée comme inévitable, comme s'il y avait là la nostalgie de la construction ancienne du monde, la construction bipolaire, binaire du monde. Allons-nous à nouveau vers une opposition marquée, violente comme celle-là, ou bien y a-t-il d'autres voies? On est avec l'équipe du Monde diplomatique sur le numéro qui va paraître ces jours prochains avec Ignacio Ramonet. Alors, en quelques minutes, on a épuisé les superlatifs, on a dit c'est une guerre, c'est la guerre, rien ne sera plus jamais comme avant, et on a parlé de guerre de civilisation, on a repris la thèse d'Huntington sur la guerre de civilisation, ou guerre de culture, ou guerre de religion. Alors, est-ce que pour vous, le monde diplomatique, c'est une guerre? Est-ce qu'effectivement, plus rien ne sera jamais comme avant? Et puis, est-ce que vous parlez dans ce prochain numéro, qui sort à la fin de cette semaine, de guerre de civilisation?
Alors, tout à fait. Je pense qu'il faut prendre très au sérieux les risques de ce que le président Bush a appelé à un moment guerre de civilisation. On a pu entendre cette idée.
C'est d'abord guerre. Pour vous, c'est une guerre.
Je pense que ce qui va se produire va prendre les allures d'une guerre, mais dont il faut tout de suite préciser que ça va être une guerre. Je pense qu'il y aura, tout le monde le pressent, d'une part une riposte précise pour se retourner vers les auteurs de cet attentat. Déjà là, cet acte-là est plein de risques. Parce que
vous dites vengeance.
Oui, vengeance, c'est comme ça globalement que c'est présenté. C'est-à-dire, il y a des auteurs. L'attentat, effectivement, a fait tout de même. On parle maintenant de 7000 victimes. C'est un acte démentiel. C'est un acte de folie. Et l'opinion publique américaine se retourne vers son gouvernement en exigeant une action qui soit au moins aussi spectaculaire. Et cette action-là, si on peut estimer qu'elle est attendue, elle est, je dis, pleine de risques, parce que ces auteurs de l'attentat, quoi qu'ils soient, appartiennent à un tout petit réseau, à un tout petit groupe, et que par conséquent, la seule riposte qui serait à la limite acceptée par beaucoup d'opinions publiques, c'est qu'elle se borne à capturer les auteurs stricts, au sens strict du terme, de l'attentat, et à les déférer devant la justice. Tout ce qui dépassera ceci, qui n'est pas spectaculaire, qui est une opération à la limite quasiment policière, eh bien, va prendre tout de suite, va avoir des conséquences très importantes, parce que, ici ou là, on va dire, les auteurs de l'attentat avaient tué des innocents, c'est regrettable, mais maintenant, on va, les Américains, dans leur volonté de riposter, vont également provoquer la mort d'innocents, et très souvent, on sait que les représailles, l'idée même de représailles dans la guerre, autorise précisément des actions criminelles qui passent sous prétexte qu'il s'agit de représailles. Deuxièmement, guerre au sens, je dirais plus profond du terme, il faut bien voir, notre idée c'est que ce qui vient de se passer, si c'est condamnable, c'est non seulement condamnable parce que ça a fait des victimes innocentes, bien entendu, mais également parce que les auteurs de ces actes ont fourni aux États-Unis et à l'équipe en particulier qui pilote les États-Unis, qui est une équipe quand même, disons, très issue de la guerre froide, très dans l'esprit de la guerre froide, qui était l'entourage déjà qui entourait le père de l'actuel président Bush. Cette équipe, on a l'impression qu'elle avait été constituée pour prolonger la guerre froide, mais elle manquait d'un ennemi. Il n'y avait pas d'ennemi. Et d'ailleurs, les premiers mois de la présidence Bush, on sentait bien que c'était une équipe qui trépignait parce que pour enclencher le type de réaction auquel elle est habituée, elle avait besoin de cet ennemi. Et ces terroristes-là viennent de leur fournir cet ennemi. Mais le fait est que cette équipe, maintenant, je dirais presque, voit dans ce qui vient de se passer, même si ça paraît comme ça surprenant de le dire, mais voit presque une aubaine. C'est une aubaine pour cette équipe. Cette équipe, elle était faite pour avoir un adversaire. Et ça faisait, disons, quand l'Union soviétique avait disparu, un certain nombre de diplomates, d'ailleurs, soviétiques, avaient dit aux Américains, on va vous faire une chose terrible, nous allons vous priver d'un adversaire. Eh bien, pendant 10 ans, les États-Unis ont été privés d'adversaires.
Si je vous comprends, ça veut dire que l'adversaire, l'ancien adversaire soviétique, a assuré la cohésion des États-Unis d'Amérique et a été le moteur du développement américain.
L'existence de l'Union soviétique a permis, disons, le formatage d'une forme de système de défense qui était adapté à l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique a disparu, cet énorme complexe militaire, etc., de défense, n'a plus eu un adversaire à sa dimension.
Sans objet, oui.
Sans objet. Mais les États-Unis l'ont maintenu, se disant toujours, essayant de se convaincre toujours qu'il était indispensable. Voire même, ils souhaitaient encore le développer avec le système de missiles, etc. Bien. Mais beaucoup d'opposants à l'intérieur même des États-Unis disaient c'est démesuré puisque nous n'avons pas un adversaire important, mondial, etc., qui pourrait nous attaquer ou qui pourrait nous fragiliser. Actuellement, ces attentats du 11 septembre permettent à cette équipe de dire heureusement que nous sommes formatés comme ça et nous allons maintenant montrer l'efficacité de ce système. Alors, aujourd'hui, cette équipe-là vient de se trouver un adversaire qu'il faut bien appeler l'islamisme radical, l'islamisme violent. Tous les islamismes ne sont pas radicaux, mais celui-là, c'est l'islamisme radical et violent, qu'ils appellent terrorisme au sens large, et je crois qu'il va falloir quand même préciser les termes. Qu'est-ce que c'est le terrorisme? Est-ce qu'ils vont débarquer en Irlande du Nord? Vont-ils débarquer au Pays Basque? Vont-ils débarquer dans telle ou telle région, au Sri Lanka, par exemple, où il y a des Tamouls? Ou bien, en réalité, s'agit-il simplement de l'islamisme radical? Et dans mon esprit, c'est de cela qu'il s'agit. Or, on sait ce que la guerre froide a été, ce qu'a été l'anticommunisme, érigé en système, disons, idéologique, qui a permis aux États-Unis de s'organiser, et ces dérives les plus dangereuses, je dirais, pour tout simplement la vie privée des citoyens en démocratie, ce qu'a été le maccartisme. Et notre crainte, c'est que, au nom de l'anti-islamisme, on développe une espèce de nouvelle, disons, guerre tous azimuts, à l'encontre de tous ceux qui, de près ou de loin, en viendrait à critiquer les États-Unis. Alors ça commence par les islamistes de Ben Laden, mais nous ne savons pas où ça se termine. Est-ce que ça va se terminer par les critiques de la mondialisation? Est-ce que ceux qui, jusqu'à présent, librement et dans le cadre des libertés démocratiques et constitutionnelles, critiquaient la mondialisation, vont maintenant être soupçonnés d'indirectement alimenter des critiques qui, par ailleurs, peuvent être mises à profit par des réseaux islamistes violents? On ne sait pas. Dans ce cadre-là, je veux dire, on peut effectivement parler de guerre, mais de guerre idéologique, dont les conséquences peuvent être dangereuses pour beaucoup de citoyens qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé le 11 septembre.
Inquiétude sur nos libertés, sur les libertés. Inquiétude sur notre puissance. Nous découvrons notre fragilité, notre vulnérabilité. On dit la Hague, c'est 67 fois Tchernobyl, et un petit avion peut se cracher sur la Hague. Et alors, on entend partout des conversations de ce genre, on découvre, s'il en était besoin, mais d'une manière éclatante, la fragilité de notre puissance, des puissances auxquelles nous nous référons et auprès desquelles nous nous rangeons. Nous ne sommes plus à l'abri. Alors quoi faire? Se durcir, déployer ses forces militaires et technologiques ou bien se demander s'il n'y a pas un problème dans l'ordre du monde, dans les développements imposés par les puissants aux moins puissants. Ignacio Ramonet le disait, sur 6 milliards d'êtres humains que nous sommes aujourd'hui, 5 milliards vivent dans ce qu'on appelle le Sud, on veut dire par là une relative pauvreté. Peut-on durablement considérer que ce Sud relève du pôle de la barbarie avec aux premières lignes des terroristes? On continue avec l'équipe du Monde Diplomatique sur ce numéro qui paraît vendredi, donc. On n'a pas encore lu, c'est donc une avant-première. Moi, je voudrais qu'on parle, puisque, bon, voilà, c'est Bin Laden, on l'a bien vu. On a vu un cas de diabolisation absolue, immédiat. Ce personnage a été partout représenté, peint en rouge. Enfin, il y a un cas, on se souvient de la guerre du Golfe, où... on avait repéré que sur une couverture d'un grand magazine américain, on avait retouché les moustaches de Saddam Hussein pour qu'il ait l'air plus hitlérien. Hein?
Newsweek.
Là, on a assisté à peu près au même phénomène. Vous qui observez ces parties du monde, Alain Grèche, Dominique Vidal, est-ce que vous êtes sûr qu'il s'agit de Bin Laden, qui est derrière ça, ses réseaux, parce qu'après tout, l'administration américaine demande aux talibans de livrer Bin Laden, et ils disent oui, volontiers, mais donnez-nous une preuve. Alain Grèche. Bon,
je crois qu'on peut avoir comme certitude que c'est les réseaux autour de Bin Laden qui sont à l'origine de l'attentat. Je ne crois pas qu'il y ait une discussion là-dessus. Simplement, on ne peut pas savoir aujourd'hui quelle est son implication directe dans la préparation. C'est quelque chose qui a demandé, semble-t-il, plusieurs années de préparation, qui demande une organisation très 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 précise. Mais encore une fois, là, on n'est pas capable de déterminer exactement si c'est lui qui a monté au sens concret l'opération. Mais ce qui est intéressant sur Ben Laden, et d'une certaine manière, puisque vous avez fait le parallèle avec Saddam Hussein, c'est intéressant. Aujourd'hui, on a oublié, mais Saddam Hussein a été un allié important de l'Occident, de la France, des États-Unis. Notamment au nom de la lutte contre l'islamisme dans les années 80. Au moment où il a agressé l'Iran et mené une guerre de 10 ans qui était une guerre absolument horrible avec des millions de victimes, où Saddam Hussein utilisait les gaz contre sa propre population kurde, à ce moment il était un allié occidental. Et je dirais que ce qui est intéressant dans Ben Laden, c'est, Ignacio l'a dit, c'est une espèce de créature de Frankenstein, c'est-à-dire qu'il s'est retourné contre son créateur. Mais en fait, il est né quand même de la lutte contre l'intervention soviétique en Afghanistan. Et de manière délibérée, les États-Unis ont aidé au nom de la lutte contre le communisme et pour abattre la puissance rivale. Ils ont aidé tous ces groupes. Pas seulement ils les ont aidés, mais ils leur ont donné tous les instruments qui leur permettent aujourd'hui d'agir, c'est-à-dire la compétence, je veux dire, une vraie compétence militaire, d'organisation, des réseaux, et ils ont créé quelque chose qui...
La preuve en a été administrée, c'était efficacité et compétence.
Oui, tout à fait. Et ils ont réussi à faire quelque chose que personne n'avait réussi à faire jusqu'à présent, c'est-à-dire c'est un groupe pan-islamique. Il y a beaucoup d'organisations islamiques, mais elles sont très divisées, qu'elles soient radicales ou non radicales. En général, elles sont inscrites dans une réalité nationale, et elles s'inscrivent dans cette réalité, elles se battent dans cette réalité nationale. Toutes les tentatives de créer des internationales islamiques avaient échoué. En fait, la seule vraie internationale islamique aujourd'hui, c'est celle qui a été créée par la guerre d'Afghanistan, c'est-à-dire celle des anciens combattants afghans. Et là aussi, les États-Unis portent une responsabilité. Et puis, il y a une autre responsabilité, là on revient à la guerre du Golfe, c'est que Ben Laden a été pro-américain jusqu'au moment où les Américains interviennent en Arabie Saoudite. Et je dirais d'une certaine manière, Ben Laden est le résultat de deux victoires américaines. La victoire contre les Soviétiques en Afghanistan et la victoire contre l'Irak au moment de la guerre du Golfe. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Parce que c'est important quand on mène une action politique aujourd'hui, on étudie les conséquences pour le lendemain, mais on réfléchit rarement à moyen ou à long terme. Et aujourd'hui, quand on réfléchit comment casser, parce qu'il faut le casser, ce réseau terroriste, il faut aussi réfléchir pas seulement à court terme, mais aussi à moyen terme. Se demander si l'intervention américaine telle qu'elle est prévue ne créera pas les Ben Laden de demain. Parce que ces questions sont venues au moment de la guerre d'Afghanistan. Il y a eu toute une série de débats. Nous citons dans le monde diplomatique une déclaration de Brzezinski, qui fut l'homme de l'intervention aux côtés des Moudjahidines. Elle date de 1998. On lui demande de réagir à une information qui est quand même un scoop, que la CIA a commencé à intervenir en Afghanistan avant l'intervention soviétique. Et on lui dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Il dit, mais nous voulions les attirer en Afghanistan. Et on lui dit, mais est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir créé ce mouvement fondamentaliste, les talibans, etc. Il dit, mais est-ce que vous pouvez mettre sur le plateau d'une même balance quelques extrémistes musulmans et la chute de l'Union soviétique? Donc, on est vraiment avec des gens qui n'ont pas une vision à long terme. Et encore une fois, c'est pas pour... il faut effectivement trouver les moyens de lutte contre le terrorisme, mais en se rendant compte que les meilleurs moyens, c'est de les couper de leurs racines. Or, ces racines, c'est aujourd'hui les frustrations qui existent dans le monde arabo-musulman, notamment la question palestinienne, et c'est ça qu'il faut effectivement résoudre.
Milliards sur la terre d'êtres humains sédentaires. Adieu le quaternaire, car nous entrons dans l'ère des effets secondaires.
Avec l'équipe du Monde Diplomatique, le mensuel Le Monde Diplomatique, autour du numéro qui va sortir à la fin de cette semaine, dont une grande partie évidemment est consacrée à la suite des attentats qui sont produits il y a maintenant presque 2 semaines aux États-Unis, mais pas seulement. On le voit à travers ce que nous disait Alain Grèche, c'est pas sorti comme ça brusquement, avec des méchants fous qui apparaissent et qui sortent de nulle part, et qu'il s'agirait de maintenant de, comme disait Poutine vis-à-vis des Tchétchènes, de les buter jusque dans les chiottes. On voit bien que, on comprend bien, on s'en doutait un peu, que cet attentat monstrueux a une histoire, pas seulement dans sa préparation, dans son élaboration, mais une histoire beaucoup plus longue. Comment les médias ont raconté, ont construit les récits qui sont ce que nous avons actuellement les uns et les autres sous les yeux, dans les oreilles et dans la tête. Serge Alim. On continue avec Le Monde Diplomatique autour de ce numéro qui va sortir donc vendredi. Serge Halimi, comment vous avez regardé les médias, télévision, presse écrite, radio?
D'abord, je crois qu'il faut commencer par les médias américains, à tout seigneur, tout honneur. Et l'intérêt, peut-être l'importance de cette crise, c'est que maintenant, un certain nombre de journalistes américains, minoritaires, mais je pense qu'il y en aura davantage à l'avenir, se posent la question de savoir pourquoi nous haïssent-ils autant. Il faut voir que pendant des années, l'international a été complètement évacué de l'angle de réflexion de la vie politique américaine, de sa vie médiatique, des pensées des citoyens américains, et là il s'impose avec une brutalité particulière. Pendant très longtemps, les dirigeants américains recherchaient la stabilité et pensaient qu'ils avaient atteint la stabilité par les marchés, qu'ils avaient intégré l'ensemble des bourgeoisies, des classes dirigeantes, y compris médiatiques, de la planète, dans un monde où nous étions tous américains. Et ce monde où nous sommes tous américains, il vient en quelque sorte d'éclater parce qu'on s'aperçoit que finalement, dans un grand nombre de pays du Sud, mais aussi en Chine, mais aussi en Russie, il y a des gens qui ne se sentent pas américains et qui n'éprouvent pas une peine particulière lorsque ces attentats surviennent à New York. Alors forcément, les Américains doivent se demander pourquoi. Ils doivent découvrir qu'il y a un monde qui existe, dont ils dépendent, dont ils peuvent payer en quelque sorte le prix s'ils l'oublient, qui ne les adore pas unanimement. Il faut se souvenir que, jusqu'à une date récente, on ne parlait plus du tout d'international aux États-Unis. C'était lors des conventions politiques de l'été 2000, quelques mots dans le discours de Bush, quelques mots dans le discours de Gore, et l'essentiel était consacré à des préoccupations très internes, des préoccupations de consommation, comment consommer davantage, comment libérer les marchés. Là, on s'aperçoit que le monde n'est plus stable et que le monde qui n'est plus stable doit redevenir un peu plus stable avec l'intervention de l'État. Et il me semble que ça, ce sont les deux basculements. La stabilité n'existe plus et les marchés ne peuvent pas garantir notre avenir. Donc on fait appel à l'État. Vous avez remarqué que même en France, quelqu'un comme Denis Kessler, qui est le numéro 2 du MEDEF, lorsqu'il a vu les pertes des compagnies d'assurance, a fait appel à l'État. Il a dit « il faudra que l'État nous aide ». Il y a quelques semaines, c'était un grand défenseur du néolibéralisme économique. Donc ça, à mon avis, c'est la première chose qui commence à apparaître. Le retour de l'international dans les préoccupations des Américains et également dans les colonnes de la presse.
Si vous arrivez, si vous venez d'ouvrir votre transistor, quand on dit l'international, c'est pas l'hymne, hein?
Oui.
C'est le secteur d'observation et de préoccupation politique des États-Unis.
Ceci prépare cela. Donc dans les préoccupations de la presse, parce que jusqu'à une date très récente, nous on en savait quand même beaucoup plus sur Love Story que sur le Pakistan. Là maintenant, subitement, on s'aperçoit que Love Story ça n'a pas une grosse importance et que le Pakistan ça peut en avoir beaucoup. Et je crois que ça c'est quand même une chose assez significative. Donc les Américains découvrent l'international, découvrent qu'un certain nombre de peuples dans le monde ne les aiment pas beaucoup et découvrent que parfois leurs énormes moyens économiques et militaires ne sont pas suffisants pour assurer leur protection. Parce que ça a été évoqué tout à l'heure, mais ça me paraît essentiel. C'est tout de même une perception de fragilité extraordinaire pour un citoyen de l'hyperpuissance américaine. Souvenons-nous qu'il y a quelques années, George Bush, mais le père, disait au moment de la guerre du Golfe, ce que nous voulons doit s'imposer aux autres. Et que Madeleine Albright disait, les États-Unis sont la nation indispensable du monde. Là, on découvre tout de même une vulnérabilité à laquelle on n'était pas prêt. Alors, ce qui est intéressant dans les réactions qu'on note ici et là, c'est que cette attaque qui voudrait déclencher ce sentiment de solidarité avec les États-Unis et qui n'y parvient que dans les pays occidentaux qui ont un certain nombre de raisons d'être solidaires des États-Unis parce qu'après tout, ils ont beaucoup plus profité, eux, de la croissance de ces dernières années que les pays du Sud, est aussi maintenant de plus en plus utilisé par certains pour mettre en cause le mouvement anti-mondialisation. Au nom de cette idée, après tout, qui sème le vent récolte la tempête, vous avez généré la haine des États-Unis, regardez ce qui se produit. Ne serait-ce que ce week-end, dans le Herald Tribune, on pouvait lire par exemple ces lignes, « Pour prospérer, je cite, « pour prospérer, le terrorisme n'a pas besoin que chacun devienne terroriste, comme l'a écrit le président Mao, l'appui tacite de l'opinion alimente la mer dans laquelle des bandes de guérilleros ou de terroristes peuvent nager. Un environnement favorable aux actions violentes a été favorisé, volontairement ou non, par nombre de manifestants anti-mondialisation qui désormais infestent les réunions internationales. La synergie entre les actions des terroristes et les objectifs des forces anti-mondialisation n'est pas uniquement fortuite. » Donc là, on devine que pour certains, au lieu de se remettre en cause...
Porto Alegre et Taliban, même combat.
Voilà. Au lieu de remettre en cause une organisation du monde qui a maintenant démontré qu'elle n'était pas stable, on va essayer d'obliger chacun à faire front contre un ennemi qui sera le terrorisme islamiste, et on va dire à tout le monde, le système qui a été mis en cause, parce qu'après tout, tout de même, il faut reconnaître que cette opération-là a visé des symboles assez bien trouvés sur le plan de la symbolique. Les tours du World Trade Center, c'est tout de même un peu un symbole du capitalisme marchand. D'ailleurs, ça s'appelle le World Trade Center, le centre commercial mondial. Et le Pentagone n'est pas non plus un symbole complètement anodin. Donc on va dire, vous voyez bien, ceux qui s'en sont pris à ces symboles-là vous accusent, vous aussi, qui mettiez en cause la mondialisation, et maintenant il faut désormais faire front autour des États-Unis.
Alors qui dit ce que vous dites ? Les médias ?
Un certain nombre de médias, y compris en France, où on retrouve maintenant de plus en plus ce thème, attention à l'antimondialisation, qui crée ce climat favorable aux actes terroristes. Mais je vais vous donner une autre citation qui est « L'horreur de ces avions détournés qui s'écrasent sur le symbole du World Trade Center souligne l'absurdité de cette violence déplacée contre la mondialisation et renforce la main des autorités qui doivent y faire face. Diaboliser de manière violente les États-Unis et les organisations du commerce mondial s'apparente à présent à une entreprise potentiellement meurtrière. »
Donc José Bové, par exemple, est un meurtrier potentiel.
En tout cas, on le met maintenant en accusation, on le somme de s'expliquer. En quelque sorte, c'est « Où étiez-vous le 11 septembre 2001 ?» José Bové.
Ou attaque.
Où étiez-vous
Le mot « attaque », là, prend tout son sens.
Est-ce que ça n'est pas « qui vole un œuf, vole un bœuf » qui détruit des plants de maïs transgéniques peut demain faire sauter la tour du World Trade Center ou les tours du World Trade Center. Et là, ce qui me semble intéressant, c'est que c'est vraiment à la fois scandaleux et pas très intelligent. Parce que l'intelligence, ce serait de s'interroger sur l'existence dans ce monde de millions de personnes, potentiellement de centaines de millions de personnes, qui estiment que la stabilité est une mauvaise chose et qui se réjouissent parfois quand cette stabilité est mise en cause. Et il faudrait donc s'attaquer en quelque sorte à ces causes-là, plutôt que de s'attaquer à ceux qui mettaient déjà en cause l'iniquité du monde et qui peuvent dire, après tout, on vous disait, nous, que cet univers n'était pas aussi stable que vous le pensiez, que nous n'étions pas tous américains.
Voilà, merci à tous, merci à l'équipe du Monde Diplomatique. On les retrouvera demain. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur tous ces sujets. Il y aura beaucoup de choses dans le numéro qui paraît ce vendredi. Ignacio Ramonet, Alain Grèche, Maurice Lemoine, Serge Alimé et Dominique Vidal. Montage Guy Vanctil. Technique aujourd'hui Clotilde Thomas et Pascal Baldassari. Assistante Joël Levert, assistant Antoine Dabrowski et Christophe Humbert. Le répondeur de la base, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Fax 01 56 40 41 07. Et on a même un email, comme tout le monde. daniel.mermet@radiofrance.com. C'est Bruno Carpentier et Antoine Chao qui ont réalisé cette émission modeste et géniale. Il me reste quelques petites secondes pour vous parler de bouquins qu'on a reçus qui semblent très passionnants. Celui d'Alain Ruscio, chez Maisonneuve et La Rose, qui est une anthologie absolument incroyable et formidable de chansons du beau temps des colonies, que la France était belle au temps des colonies. Il y a absolument tout. Il y a même un CD dans ce disque. Beaucoup de livres sortent sur l'Algérie, la guerre d'Algérie, la torture, le 17 octobre 61. On y reviendra bien évidemment. On a reçu chez l'Aube, dans l'éditeur l'Aube, l'Algérie 1956, le livre blanc de la répression, à des textes et documents réunis par Denise et Robert Barra, dont nous reparlerons. Parce que nous ne pouvons plus en parler, c'est le moment de la réclame.